On reçoit à nouveau dans le studio de Radio PFM plusieurs membres de l'association Les Amis de l'Abbaye Saint-Va. Bonjour à vous.
Bonjour à tous et à toutes.
Il y a Pierre Cusonnier et Alain Duez. Donc Les Amis de l'Abbaye Saint-Va, c'est une association qui s'est montée en réaction au projet d'hôtel de luxe à l'Abbaye Saint-Va à Arras. L'actualité, c'est que ce projet avance inéluctablement, on peut dire. Vous avez sorti avec votre association un tract, un dépliant,
oui.
Qui reprend un certain nombre de vos arguments. Tract dans lequel vous évoquez notamment un saccage irrémédiable. Alors à quoi vous faites référence justement? Est-ce que c'est au problème aussi des fouilles archéologiques, c'est-à-dire de ce qui est en dessous en fait de l'abbaye?
Bah, c'est les deux, c'est ce qu'il y a en dessous et c'est également ce qu'il y a au-dessus. Parce qu'en fait, pour pouvoir aménager 98 chambres, il va falloir retirer tout ce qui existe. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs il a été lancé un appel d'offres au mois d'août par la municipalité pour une opération de curage, non pas de curetage, un curage qui consiste en fait à déconstruire l'ensemble des structures qui sont à l'intérieur du bâtiment. Plancher, plafond, escalier, menuiserie, etc. Autant menuiserie intérieure qu'extérieure. Par contre, il semblerait qu'effectivement les menuiseries extérieures seraient conservées et restaurées. Pour ce qui concerne le sous-sol, effectivement, nous sommes en plein dans les vestiges archéologiques de l'abbatiale primitive. Et jusqu'à ce jour, il n'a pas été fait de fouilles précises. Et aujourd'hui, suite à cet appel d'offres de curage, on voit des opérations de sondage qui sont en train de se faire dans le sous-sol. Et ceci se fait sans contrôle d'architectes ou de services de l'archéologie. On peut donc s'attendre au pire.
A priori, sans contrôle, puisque ces sondages sont faits par une équipe, un bureau d'études qui a été désigné à la suite d'un concours express entre août et septembre, et dans laquelle il n'y a aucun spécialiste de la restauration des bâtiments anciens, spécialiste reconnu et ayant l'expérience, dans l'équipe choisie. Dit d'ailleurs dans les autres concurrents. Voilà. Bon, ça laisse craindre le pire. Voilà.
Ça rejoint l'une de vos critiques principales qui est le manque de transparence générale autour de ce projet. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites avec cet argument que il y a des négociations, que ça doit rester secret, que certaines choses ne peuvent pas sortir du fait aussi de la volonté de l'investisseur. Comment vous voyez les choses?
C'est-à-dire qu'effectivement, on ne révèle que ce qui est strictement nécessaire et rendu obligatoire. Dans le cadre du conseil municipal, effectivement, nous avons eu connaissance du budget de l'ADP, c'est-à-dire l'avant-projet définitif, alors que l'avant-projet sommaire, n'a jamais été publié. Et dans cet avant-projet définitif, on constate qu'il y a un certain nombre de coûts, de postes de dépenses qui sont des dépenses municipales, mais au bénéfice exclusif de l'hôtelier.
Oui, c'est une critique qui est aussi émise par une partie de l'opposition. Justement, alors quel rôle joue l'opposition municipale dans cette question, dans cette discussion autour du projet? Pierre Cusonnier, peut-être?
L'opposition joue son rôle, je crois, assez normal. J'ai pas de... On va pas se lancer, excusez-nous, critique pas ce que dit l'opposition. Quand l'opposition des écologistes signale qu'il y aura des problèmes thermiques, elle a tout à fait raison. Maintenant, après, comment doivent-ils être résolus? Ça, c'est une autre question. De même, sur les coûts, l'absence de transparence. Ok, bon. Mais il faut aller jusqu'au bout de cette critique. C'est-à-dire, il faut mettre au jour. Notre travail, c'est d'informer, de faire que les gens qui ne le sont pas, qu'on n'a pas informés, le but de ce dépliant, c'est d'informer les citoyens de la ville et d'ailleurs, de ce qui se prépare. Parce que tout ça, sous le vertueux couvert de la restauration des toitures et des façades, bon, tout ça c'est très bien, il se prépare quelque chose qui est irréversible. C'est effectivement aussi l'avis, par exemple, de gens comme la Chambre régionale des comptes, qui a écrit dans son dans son dernier rapport que en cas d'échec, l'échec pour nous il est certain. Bon, maintenant, la commune récupérerait un bien qui ne répondrait plus à la
possibilité d'accueillir des services publics locaux.
Voilà. Donc, par le fait d'innombrables percements pour les évacuations, etc., les amenées d'eau, les évacuations d'air, la déclimatisation, bon, les cuisines, etc., et tout ce qui va avec. 98 chambres, c'est énorme, et avec chacune deux salles d'eau, hein, c'est quelque chose qui, effectivement, va profondément dégrader cet ensemble par l'intérieur, bon, même si l'extérieur est bien refait.
Et sans compter une piscine de 1000 m² en sous-sol.
Alors, le projet parfois est présenté comme, il y a un investisseur qui est prêt à nous aider à restaurer le patrimoine municipal. Vous, dans votre dépliant, vous dites carrément que c'est faux, en fait.
Effectivement, c'est le discours un peu misérabiliste de la municipalité qui, depuis le début, nous dit qu'on n'a pas les moyens d'assurer la restauration du bâtiment. Toiture comme les façades, et qu'on a besoin absolument d'avoir recours à un investisseur privé qui généreusement contribuerait aux travaux. En fait, c'est faux. L'investisseur hôtelier ne finance que son hôtel. L'ensemble des travaux de couverture et de restauration de façade est à la charge de la collectivité. Donc non seulement l'investisseur n'investit pas, mais en plus il se fait payer par la collectivité une verrière au-dessus de la cour du puits qui lui permettra de transformer cette cour en son lobby.
Ça, c'est une exigence de l'investisseur, c'est ça ?
C'est une exigence de l'investisseur, effectivement. Donc, la municipalité, bien que refusant de financer un projet global au niveau de l'abbaye, finalement, n'hésite pas à faire des cadeaux royaux à l'investisseur. Et parmi ces cadeaux, bien d'abord, il y a eu les 60 000 euros TTC du marché de maîtrise d'œuvre du curage, au seul bénéfice de l'hôtelier, bien évidemment. On découvre également dans le budget de l'appel de l'avant-projet définitif que 700 000 euros seront dédiés aux doubles fenêtres de l'hôtel, toujours à la charge de la collectivité. Il y aura 130 000 euros pour l'isolation sous les toitures de l'hôtel, isolation qui d'ailleurs masqueront les charpentes monolithiques de Pierre Paquet, sans oublier la verrière qui coûterait la bagatelle de 3
millions 55. Ça commence à faire beaucoup. Hein.
Oui. Donc on arrive à un total de 4,44 millions d'euros. Et si on continue à creuser, on se rend compte qu'il y a eu d'autres frais accessoires. Comme au début du projet, il y a eu une étude de la part d'un cabinet MKG, un cabinet hôtelier, qui a évidemment conforté la municipalité dans son choix de créer un hôtel dans l'abbaye. On n'en connaît pas le coût. Il y a aussi l'étude de l'assistance à maîtrise d'ouvrage en début de projet, d'ailleurs assistance à maîtrise d'ouvrage par laquelle nous avons appris que l'abbaye était un lieu fermé et élitiste, inconnu des habitants et ayant une image négative, ce qui peut justifier la suite. Et puis enfin, on peut aussi faire mention des nombreux avocats parisiens qui soutiennent le projet. Tout ceci n'est pas chiffré. Donc si on met bout à bout toutes ces dépenses, on peut globalement arriver à une dépense qui serait de l'ordre de 5 à 6 millions d'euros, généreusement allouée par la municipalité à l'investisseur hôtelier. On peut se poser la question suivante, est-ce qu'on n'est pas en train de démontrer par l'absurde qu'on aurait pu se passer de l'investisseur hôtelier, puisque cette somme de 5 à 6 millions d'euros aurait très bien pu être affectée directement par la municipalité pour bâtir au sein de l'abbaye un projet qui lui n'aurait pas été hôtelier mais qui aurait été culturel et d'intérêt général.
On est toujours en compagnie de Pierre Cusonnier et Alain Duez, membres de l'association Les Amis de l'Abbaye Saint-Va. L'asso vient d'éditer un dépliant 4 pages contre le projet d'hôtel de luxe au sein de l'Abbaye Saint-Va. Alors, il y a une autre accusation forte, il me semble, dans ce tract, hein, c'est la question de la défiscalisation. Pour vous, l'investisseur, en fait, ne ferait qu'une opération fiscale, finalement, par cette action. Enfin, c'est possible, en tout cas.
Oui, c'est effectivement ce qui ressort des textes de loi en matière de défiscalisation dans les monuments historiques. Il a toujours été possible de défiscaliser dans les monuments historiques. Seulement, depuis 2013, un dispositif particulier permet de défiscaliser sans limite et sans condition. C'est-à-dire qu'un investisseur qui veut s'attacher à la restauration du patrimoine est amené à défiscaliser finalement l'ensemble de ses intérêts d'emprunt et l'ensemble de tous les travaux, quelle qu'en soit la nature, y compris les travaux qui ne sont pas des travaux de réhabilitation de bâti.
Pierre Cusonnier, peut-être ?
Oui, il faut dire, j'appuie simplement ce que dit Alain, défiscalisation, ça veut dire que les 40 millions que, paraît-il, l'investisseur privé apporte, c'est 40 millions qu'il défiscalise en totalité et qui sert uniquement à construire son hôtel à l'intérieur. Hein. Donc ça n'est pas du tout... Et une défiscalisation, c'est de l'argent public qui est repris, en quelque sorte, par l'investisseur, puisque il en bénéficie, en fait. Voilà. Donc c'est quelque chose d'assez grave. Je voudrais un petit peu... rendre un peu justice à Pierre-Antoine Gatier, l'architecte des monuments historiques, qui produit dans sa prestation devant la mairie des vues, dont en particulier une vue de la cour du Puy, qui enfin rompt avec les vues produites précédemment par l'hôtelier, hein, bon, enfin l'hôtelier, non, le financier, parce que c'est pas... Et par l'architecte qui travaille pour lui. Bon, on voit vraiment le hall d'hôtel dans toute sa banalité. Il montre une chose, c'est que, un, cette verrière au-dessus, elle fait oublier les toitures, visuellement, hein, et deux, on remonte les sols pour l'accès handicapé, de manière telle que les façades se trouvent privées de soubassement. On ne voit plus le bas des murs. Les fenêtres qui sont, disons, à rez-de-chaussée, ces fenêtres-là ont l'air d'être posées presque par terre. Et on a une perte de proportion, si on parle cette fois-ci d'aspect architectural. Il y a vraiment une dénaturation architecturale des façades de la cour du Puy. Voilà.
Alors, on l'a compris, il y a encore beaucoup d'inconnus hein, dans ce projet, mais il y en a une qui est d'importance aussi, c'est la place du musée de la médiathèque dans tout ça. On se doute que l'hôtel va pousser le musée, peut-être un peu la médiathèque. Alors est-ce qu'on a des informations supplémentaires par rapport à ça ?
On ne sait pas grand-chose. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que la salle d'exposition temporaire a disparu. Et aujourd'hui, on ne sait pas si elle sera rétablie quelque part dans ce qui est annoncé pour l'hôtel ou le musée. Ensuite, ce dont on peut être sûr, c'est que les volumes qui resteront réservés au musée seront bridés par l'hôtel. Il n'y aura donc aucune possibilité d'extension. Et en particulier, il y aura aussi impossibilité dans le futur de faire bénéficier ce musée de services annexes comme une librairie, une cafétéria, etc., qui pourraient rapporter de l'argent. Tout ce qui aujourd'hui pourrait générer des revenus sont du côté de l'hôtel exclusivement.
Alain Duez, Pierre Cusonnier, il y a une abbaye, il y a ce puits, il y a des légendes, il y a l'histoire, une partie de l'histoire d'Arras, et il y a aussi dans cette histoire, il y a un fantôme. Alors est-ce que vous pouvez nous parler du fantôme ? Quel est-il, ce fantôme ?
On a du mal à le rencontrer.
Oui. Non, je ne l'ai jamais vu.
Non. C'est quoi le fantôme ? La maison du projet ?
Oui, ça, il est annoncé depuis très longtemps, un an maintenant, qu'il allait exister au sein du musée une maison du projet pour pouvoir informer les citoyens de ce qui les attend et leur proposer également de participer à une co-construction du projet. Et à ce jour, nous n'avons rien vu venir.
Pas même une ombre dans les couloirs.
Pas même une ombre. Il y a simplement une petite étiquette.
À un moment, il y avait une urne, mais elle a un peu disparu.
Oui, elle a disparu, effectivement. Là, ce qui existe néanmoins, c'est la possibilité de poser des questions par Internet, auxquelles il y a eu très peu de réponses. Il y a eu 12 réponses en un an.
Ouais. Alors justement, pour celles et ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être aussi... peut-être opposé à ce projet d'hôtel de luxe, que faire? Parce que là, bon, on voit bien que la machine est enclenchée. Il y a votre association. Comment faire pour lutter finalement contre ce projet?
Bon, c'est d'abord d'informer le public, parce qu'il y a une absence d'information qui est patente, qui fait que très peu de gens même savent qu'il se prépare quelque chose, hein, qu'il va y avoir des travaux. Et donc, déjà informer le public, bon, ce qui est jugé, parfois, ça ne leur plaît pas, ce dépliant...
Vous seriez malveillant, il paraît.
Ah oui, il paraît, oui. Bon, je dirais malheur aux porteurs de mauvaises nouvelles. Voilà, parce que nous sommes des porteurs de mauvaises nouvelles, dans la mesure où nous expliquons les choses. Et l'explication, c'est que l'hôtel, il va pas marcher. On ne voit pas comment il pourrait marcher sur un plan économique, etc. S'il marche, ça sera au détriment... de toute façon, du commerce local, etc., par la mainmise sur un nombre important de places de stationnement réservées, etc., et d'autres choses, et des concurrences déloyales vis-à-vis d'établissements existants.
Oui, restaurateurs et hôteliers actuels.
Voilà, bon. Ce que je trouve particulièrement regrettable aussi, c'est qu'on se réfère, y compris au niveau du ministère, à un avis de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, CNPA, de 2013 sur un projet complètement différent qui, lui, avait un but culturel. Hein ? C'est pas du tout le même projet. C'est pas parce qu'il y avait une verrière aussi que ça change la nature des choses. C'est
pas. Alors que faire pour lutter contre ça? Alors de informer.
Informer, faire savoir. Il faut qu'ils sachent qu'on va vers quelque chose qui va être grave, un édifice qui va être saccagé, qui va plus être utilisable, sauf dépenses énormes. Pour d'autres choses. C'est pourquoi on l'aura percé de toutes parts en particulier. Bon, voilà, donc c'est ça. Nous ne sommes pas là pour tout substituer à une réflexion qui doit se faire de manière effectivement collective et avec l'association des citoyens. Ce n'est pas le cas actuellement. Tout se fait sous le manteau. J'ai écrit à M. Gatier que c'était sous le manteau de Noé, qu'on présente à une histoire biblique. Bon, le manteau jeté pour ne pas voir ce qui se passe en dessous. Et ça, c'est grave.
Et tout se fait avec la bénédiction des instances chargées de protéger le patrimoine. À tel point qu'on peut se demander si le ministère de la Culture et ses services délocalisés ou déconcentrés ne sont pas devenus le ministère du tourisme.
Bon, enfin, il y a eu un article de M. Duhal, directeur régional adjoint des affaires culturelles, disant qu'ils sont d'accord pour ce projet, qu'ils trouvaient très bien, etc. Ce projet d'hôtel. Hein, voilà. Donc ça, on ne peut pas oublier que c'est comme ça que le ministère s'est manifesté jusqu'à présent, pas autrement.
Pierre Cusonnier et Alain Duez, membres de l'association Les Amis de l'Abbaye Saint-Va, retrouvez les différents sujets réalisés par PFM sur cette question sur notre site internet radio-pfm.com.